Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Au sommaire de ce journal, les présidents de la CENCO et de l'SSC, l'Église du Christ au Congo, demandent à la CENI de faire la lumière sur tous les cas d'irrégularité documentés par les différentes parties prenantes. Ces deux responsables l'ont dit dans une déclaration conjointe publiée ce jeudi à Kinshasa à la suite de l'observation électorale pour la justice et la paix post-électorale. C'est désormais effectif à partir de l'Ituri depuis ce jeudi 4 janvier 2024 le visa gratuit pour les Congolais vers l'Ouganda tel qu'annoncé auparavant par le ministère congolais des Affaires de la coopération régionale. De nombreux commerçants ituriens se réjouissent de la mise en œuvre de cette mesure de libre-échange pour la promotion de l'économie dans cette province. La RDC commémore ce jeudi le 65e anniversaire de la mort des martyrs de l'indépendance à Kinshasa, alors Léopoldville. Invité de Radio Okapi, l'écrivain André Yoka explique que la date du 4 janvier 1959 reste historique pour avoir déclenché les processus ayant abouti le 30 juin 1960 à l'indépendance du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les présidents de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo demandent à la CENI de faire la lumière sur tous les cas d'irrégularité documentés par les différentes parties prenantes. Ces deux responsables l'ont dit dans une déclaration conjointe publiée ce jeudi à Kinshasa, intitulée « Déclaration conjointe CENCO-SSC à la suite de l'observation électorale pour la justice et la paix post-électorale ». Ils estiment qu'une commission d'enquête indépendante et mixte s'avère nécessaire, car, affirme-t-il, de cette lumière dépend aussi l'affectation, l'acceptation des résultats à chaque niveau de scrutin. Plus de détails avec vous, Alain Hirong.
Les présidents de la CENCO et de l'ECC demandent au procureur général, près la Cour constitutionnelle, de se saisir d'office de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin d'amener la haute juridiction de la sincérité électorale à dire le droit et redorer la fierté de la République. Ils condamnent fermement la violence aussi bien verbale que physique observée tout au long de ce présent processus. Ils demandent au procureur général de la République, en sa qualité de garant de l'action publique, d'ouvrir des poursuites judiciaire à l'endroit de tous les auteurs d'actes de violation et de fraude électorale. Par ailleurs, Mgr Marcel Outembi et André Bokundoa encouragent toutes les parties prenantes à recourir à des voies pacifiques pour toutes sortes de revendications. Ils invitent la CENI à honorer son engagement pris devant la nation de publier les résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote dans le respect de la loi électorale. Enfin, ils exhortent le peuple congolais à demeurer uni et vigilant dans le combat contre les antivaleurs d'où qu'elles viennent.
Et puis, report de la publication des résultats des élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023. La société civile, la commune de Boulengera à Butembo, au Nord Kivu, salue cette décision de la CENI. Selon John Kameta, président de cette structure citoyenne, ce report pourra permettre une publication générale des résultats, plutôt que de le faire partiellement. Une occasion pour les mandataires et témoins d'avoir des rapports complets à remettre à leur parti ou regroupement politique. Il appelle également la CENI à la sincérité. John Kameta l'a dit au téléphone de Guylaine Kassassia.
C'est une décision que nous devons saluer par le fait que dans certaines entités, on n'avait pas encore fini avec la compilation. Comment pouvez-vous vous imaginer que la CENI au niveau national puisse proclamer alors qu'au niveau local, on n'a pas encore fini avec les comptages des voix. Et donc, cela ne pouvait pas permettre à ceux-là qui pouvaient avoir des comptes à scier d'avoir des éléments de preuve. À notre niveau, nous pensons que ça va aussi permettre à ce que les mandataires des différents partis, les observateurs comme les témoins de certains candidats puissent d'abord s'acquérir des voix que leur parti politique a eu au niveau de chaque entité. Et donc, ça a été vraiment une décision réfléchie, voire même pour, par exemple, la convocation électorale pour les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs, voire les sénateurs. Mais on ne peut pas postuler sans savoir celui qui a gagné des élections au niveau provincial. Mais il faut aussi dire que si on ne fait pas attention, ça peut aussi être maintenant l'occasion pour la CENI de faire des mauvais arrangements selon qu'ils sont dans des cas familiales politiques. Il faudrait que maintenant, les entités de la CENI puisse travailler avec sincérité.
Et sous un autre chapitre, de nombreux ressortissants de l'espace Grand Kassai sont toujours terrés à la gare de Luena. Ils y passent la nuit à la Belle Étoile après avoir été expulsés de leur maison pour les uns par les jeunes de la commune urbano-rurale du territoire de Boukama et pour les autres à cause des menaces dont de la part des autochtones. La société civile locale qui déplore leurs conditions de vie demande à l'État de les sécuriser pour que chacun d'eux retourne dans sa maison et qu'ils reprennent leurs activités comme par le passé. On écoute Johnny Ndai Kalumba, coordonnateur de la société civile de Louena, joint par Jean Gandou.
Il est en train de pleuvoir chaque jour. Nous avons des enfants, même des vieillards, qui sont en train de passer la nuit à la belle étoile. Ils peuvent attraper des maladies qui rentrent à la maison pour reprendre la vie normale. La commune de Louena ne peut pas être développée avec une seule tribu. Louena doit être développée avec tout le monde. C'est pourquoi nous demandons la tranquillité. Nous sommes capables d'habiter avec tout le monde pour notre développement. À nos frères qui sont en gare, nous les demandons aussi de rentrer sans crainte à l'État qui prenne les dispositions. Chacun rentre chez lui avec une meilleure sécurité. Nous sommes obligés de rester ensemble. Nous tous, nous sommes des Congolais.
Et puis, retour au calme ce jeudi dans la commune de Louena, en territoire de Boukama, dans la province du Haut-Lomami, après une journée agitée. Des hommes que plusieurs habitants de Louena qualifient de Maïmaï Bakatakatanga ont investi l'état-major du commissariat de la police, exigeant la libération d'un des leurs. Cette situation a créé la panique, obligeant plusieurs personnes à rester terrées chez elles à cause des crépitements des balles qui ont été entendus. D'autres détails avec Jean Gandou.
D'après le chef relais de l'UNA, ce mercredi, peu avant 16h heure locale, près de 40 personnes munies d'armes blanches, dont les lances, les couteaux, les bâtons et autres amulettes avec des bandelettes rouges autour de la tête, ont investi l'état-major du commissariat de la police à l'UNA. Ils ont descendu les drapeaux nationaux et hissé les leurs. Par cet acte, ils exigeaient la libération d'un des leurs, arrêté il y a quelques jours dans la localité de Mukulakulum, située à une dizaine de kilomètres de l'UNA. Les policiers présents au commissariat ont vite alerté les forces de l'ordre qui sécurisaient les personnes qui ont fui les menaces des jeunes de Louena et qui se retrouvent en gare. Ces policiers sont allés sur les lieux pour s'en convaincre. D'après le chef relais de Louena, un de ces hommes a voulu ravir l'arme d'un commandant. C'est ainsi que les autres ont ouvert le feu. Un des assaillants a été atteint à la jambe et trois autres, dont une femme, ont été arrêtés. Leur drapeau a été enlevé et remplacé par celui du pays. Nous apprenons que celui qui a été atteint s'est vu amputer la jambe. Plusieurs personnes à Louena se demandent pourquoi les autorités n'ont toujours pas pris la mesure de la chose pour décourager ces hommes, car ils habitent à Louena et leur bastion est connu de tous. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
En Ituri, l'entrée des Congolais en Ouganda sans payer le visa est effective depuis ce jeudi, tel qu'annoncé par le ministère congolais de la coopération régionale. Selon les services spécialisés ougandais, les voyageurs doivent préalablement obtenir le visa en ligne et être munis de leur passeport ou laissez-passer individuel. De nombreux commerçants se réjouissent de la mise en œuvre de cette mesure de libre-échange pour la promotion de l'économie de cette province, affectée par les conflits armés depuis environ deux décennies. Des détails avec Isaac Rémo.
Les Congolais arrivés ce jeudi dans les localités Lakisre de Toroko et Buguma en Ouganda ont été agréablement surpris d'être exemptés des frais de visa de $50. C'est là en application de la mesure de libre-échange de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC qui est entrée en vigueur depuis le 11 juillet 2022. Cependant, ces voyageurs ont été soumis à certaines formalités. Selon les services d'immigration de l'Ouganda, ils doivent être munis de leur passeport, un tenancier de passeport, un laissez-passer individuel ou un jeton pour les riverains. Ils doivent également obtenir les visas en ligne sollicités au préalable avant les voyages. À défaut, ils sont obligés de payer environ $6 américains en monnaie ougandaise. La plupart des Congolais qui n'ont pas été informés de cette disposition ont dû payer ce jeudi cette somme. Par contre, les ressortissants de l'Ouganda qui entrent en RDC continuent de payer $50 de visa pour un séjour d'un mois dans les localités frontalières et $183 à l'intérieur du pays. Les services d'immigration congolais disent n'avoir pas encore reçu l'instruction du gouvernement pour l'application de cette mesure des libre-échanges qui est réciproque entre tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Congo central, près de 2000 hectares de cultures de manioc, de maïs, arachide, bananiers et autres cultures maraîchères dans les vallées de plusieurs rivières, dont Konkosi et Mvoisi, dans les secteurs de Boko et Kwilungongo, en territoire de Manzangungu, sont dévastés par les inondations. Elles sont causées par une forte pluie qui s'est abattue sur cette contrée dans l'après-midi du 2 janvier dernier au matin d'hier, mercredi, le 3 janvier 2024. Victor Nzuzi Mbembe, Un des acteurs de développement de Mbanzangungu qui livre l'information indique qu'à l'heure actuelle, les paysans sont en train de récolter précipitamment avant la période prévue. Mais malheureusement, plusieurs cultures sont déjà endommagées. Ils redoutent une famine dans cette contrée et une hausse des prix de plusieurs cultures en cette année dans certains centres de consommation de la province. Victor Zouzimbembe explique au micro de Nana Plurus Mambou.
Nous avons des dégâts énormes. Le maïs, le manioc, les cultures maraîchères comme tomates, toutes ces cultures sont sous eau, même le bananier. Eh bien, la récolte devait commencer en principe au mois de février, mars, jusque vers le mois de mai. Et donc là, c'est dans la précipitation qu'on doit récolter pour éviter le pourriture. Donc c'est une situation qui aura un impact très, très négatif dans la mesure où même le boutir qu'on doit planter en saison B, au mois de mars et avril, nous allons manquer ce boutir parce que tout ce qu'on est en train d'arracher maintenant, ça va sécher. De même pour les semences d'arachide ou de maïs, nous aurons des problèmes parce que tous ces champs-là inondés, c'est des cultures perdues. Que les autorités viennent assister le paysan en semence et autres intrants. Mais que les autorités assistent aussi le paysan en matière d'encadrement. Un encadrement par rapport à la résilience, maintenant qu'on parle du changement climatique. Et à la fin, il faudrait que les autorités assistent le paysan en matière de terres. Il n'y a pas assez de terres dans le milieu parce que toutes les terres sont occupées par des grandes entreprises qui sont dans le milieu.
Clôture ce jeudi 4 janvier à Kinshasa de la campagne de prise en charge médicale gratuite des plaies chroniques communément appelée Mbassou, réalisée par des spécialistes venus de France en collaboration avec un personnel médical congolais. Lancée le 16 décembre dernier à Kinshasa, cette campagne a permis au docteur Jean-Paul Lembe-Lembe, spécialiste des plaies et cicatrisation, de consulter des dizaines de patients de l'ulcère de Bourouli et dont une bonne partie est en bonne évolution selon lui. Cette campagne va se poursuivre avec un personnel médical congolais qui a bénéficié de la formation des spécialistes français mais aussi à travers la télémédecine, autrement l'assistante médicale à distance. Blaise Ndongala Mayanda pour plus de détails.
Pour docteur Jean-Paul Lembe-Lembe, les Congolais doivent comprendre d'abord que l'ulcère de Bourouli, communément appelé Mbassou à Kinshasa, est une maladie qui guérit après traitement.
En fonction de l'étiologie, j'ai vu des gens qui ont des plaies qui traînent depuis 10 ans, depuis 15 ans. Nous les avons traités. Pour traiter une plaie, il faut traiter la cause. Et quand on a identifié la cause, on a le traitement qui va et ça marche très bien.
Quelles sont alors les causes de ces plaies chroniques?
Le Mbassou, il y a plusieurs causes. Ça peut être le diabète, ça peut être les artères, ça peut être la cigarette qui donne des artérites. C'est une bactérie de la même famille que la mycobactérie de la tuberculose, la mycobactérie de la lèpre.
Dans cette équipe se trouvent aussi les techniciens français qui développent des solutions de télémédecine.
L'idée ici, ça va être de pérenniser la campagne qui a été mise en œuvre puisque le docteur Lembe-Lembe va rentrer en France. Et avec cette solution de télémédecine, il va pouvoir continuer d'accompagner les spécialistes de la clinique afin qu'ils puissent au mieux prendre en charge leurs patients.
Cécile Nguélé est parmi les personnes ayant bénéficié de cette prise en charge.
Ça évolue. Avant, j'ai buvais, on me mettait des crèmes. Lui, il a dit non, pas des crèmes. Il me met juste une petite sparadrap là. Il y a tous les médicaments. Il y a un grand changement. Moi, je ne veux même pas qu'il arrête, qu'il continue, bon, puisqu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Hein.
Cette campagne se poursuit à la polyclinique Kairis, sur l'avenue Ngouma, numéro 187, dans la commune d'Engaliema.
Et sous un autre chapitre dans la province du Nord Kivu, on a organisé ce jeudi une messe d'action de grâce pour célébrer la journée des martyrs de l'indépendance en RDC. Plusieurs cadres politico-administratifs, responsables des confessions religieuses et chefs d'agence du système des Nations Unies y ont pris part. C'était une occasion pour le vice-gouverneur policier de faire appel à l'unité et l'engagement pour la paix dans la région. De détail avec Bernard Denyangui.
Dans son homélie, l'évêque du diocèse catholique de Goma, Mgr Willy Ngombi, a appelé à l'amour du prochain pour honorer la mémoire de tous les martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959.
Aussi longtemps qu'il y aura des personnes qui vivent encore dans des camps de déplacés, aussi longtemps qu'il y aura des fonctionnaires de l'État sans salaire, nos frères et sœurs morts ce 4 janvier, leur mémoire reste vaine.
Pour le vice-gouverneur policier, autant il convient d'honorer la mémoire des martyrs de 1959, autant il faut honorer les autres martyrs du temps présent, commissaire divisionnaire Romy Ekokalipopo.
Pensez à Emery Patrice Lumumba et d'autres. Ils ont été religieux, ils ont été militaires et ils ont été anonymes. Les déplacés de cette guerre.
Le Nord Kivu, ayant connu près de tant de guerres, qui a déjà fait des milliers de morts, dont des militaires, le secrétaire général administratif de l'Université des Martyrs du Congo, présent à cette messe d'action de grâce, se réjouit ce jour de la création de son institution universitaire. Pour le doctorant Philippe Aksanti, cette initiative est une des actions qui honore ces martyrs de l'RDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Et parlons éducation en bref à présent. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique confirme pour le lundi 8 janvier 2024 la rentrée des classes au deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Pour cela, chaque directeur provincial de l'EPST est tenu de réunir son comité provincial et prendre les mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire, précise Christine Nepa-Nepa, secrétaire générale à l'EPST.
Actualité internationale.
Le président kényan William Ruto a fait l'objet de nombreuses critiques suite à des menaces de désobéir aux ordonnances des tribunaux émanant des juges corrompus. Ruto a déclaré que certains juges anonymes s'étaient associés à des politiciens de l'opposition et à des cartels pour bloquer les projets de son gouvernement.
L'invité.
La République démocratique du Congo commémore ce jeudi le 65e anniversaire de la mort des martyrs de l'indépendance à Kinshasa, alors Léopoldville. Invité de Radio Kapi, l'écrivain André Yoka explique que la date du 4 janvier 1959 reste historique pour avoir déclenché les processus ayant abouti le 30 juin 1960 à l'indépendance du pays. Il s'entretient avec Blaise Nongala Mayanda.
Vous venez de publier un article
en revenant sur les faits marquant les événements du 4 janvier 1959.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette publication ?
Il s'agit d'un article commémoratif sur les événements du 4 janvier 1959, où je signale que j'ai pu assister à des émeutes inattendues. De quoi s'agissait-il en deux mots ? C'était un dimanche, c'était à la sortie d'un match de football. Pita Club qui jouait avec Mikado, une équipe qui n'existe plus. Mais au même moment, c'était le meeting programmé du président de la BACO. La BACO, c'est l'association des Bakongo, Joseph Kasavubu, à la place IMCA, au rond-point Victoire. Le destin fatal a voulu que, à la fin du match, Vita Club, qui était, comme aujourd'hui, une équipe populaire, ayant perdu, ses fanatiques se sont rués dans la rue, dans la colère. Et cette colère a rencontré l'autre colère, celle des adeptes de la BACO qui apprenaient sur le coup que leur meeting avait été annulé par l'administration coloniale belge. Et donc, ça fait un feu de brousse incroyable sur la place de l'IMCA. Cette colère s'est propagée comme un feu de brousse, je le disais, à travers les quartiers populaires de Kinshasa. Rankin, c'est-à-dire Matongé, c'est-à-dire la commune de Kinshasa, la commune de Barombou, la commune de Saint-Jean à l'époque, c'est-à-dire Lingwala aujourd'hui, et un peu la commune de Kitambo.
Donc, professeur, tout est parti de la place IMCA.
Voilà, tout est parti de la place IMCA avec un meeting avorté, celui de la BACO. Toute la ville s'est enflammée. J'habitais chez mes parents à la commune de Kinshasa et donc je suis venu au bord de l'avenue qu'on appelait Roi Baudouin et j'ai vu défiler des jeunes, des femmes même, des femmes pauvres, en train d'arracher tous les symboles de la colonisation. Les poteaux électriques, les indicateurs, etc. Mais c'est allé loin parce que nos aînés qui revenaient du match nous disaient que l'église catholique Saint-Pierre, qui est dans la commune de Kinshasa, avait été pillée, saccagée.
Désacralisée.
Ah oui, oui, et même la procure des prêtres qui fait face à l'église, mais aussi l'église Saint-Paul dans la commune de Barombou avait été saccagée et tous les symboles sacrés de l'église avaient été emportés, les calices, les tabourets. Mes parents sont venus nous chasser et nous ramener vite à la maison, nous récupérer. Nous disaient que eux, ils avaient vu des sortes de nains, c'est de la rumeur, hein, des sortes de nains sortis d'outre-tombe qui manifestait une énergie et une force diabolique pour arracher des poteaux qui avaient été plantés là sur le béton depuis des années et des années. Et la force publique a commencé à tirer sur les gens. Il y a eu des morts.
La force tirée à balles réelles, c'est ça?
La force tirée à balles réelles parce que consciemment, inconsciemment, les émeutiers croyaient qu'ils étaient invincibles.
Comment vous évaluez l'apport des leaders politiques congolais de l'époque dans les processus de l'indépendance de la RDC?
La BACO c'est-à-dire l'Alliance du Bas-Congo, était le parti le plus implanté dans la ville de Kinshasa. Alors que les autres mouvements, comme le mouvement de conscience africaine, réclamaient une indépendance, comment dire, par étapes. La BACO réclamait l'indépendance immédiate. Il faut reconnaître la contribution de la BACO comme étant le fer de lance de ce mouvement-là a été déterminant pour ainsi précipiter l'indépendance du pays. Précipiter pourquoi ? Parce que le 13 janvier, le roi des Belges, paniqué, fait une déclaration où, pour la première fois, il évoque l'éventualité de l'indépendance du pays en des termes qui sont restés emblématiques.
Quelle est, selon vous, la leçon que les nouvelles générations peuvent retenir du combat mené par les martyrs de l'indépendance ?
Il faut que les livres d'histoire reviennent sur le courage, l'héroïsme de nos pères, de nos grands-pères qui, ce jour-là, se sont levés comme un seul homme pour dire non à la colonisation et de la manière qu'il fallait.
Professeur André Yuka, Radio Capi vous dit merci d'avoir accepté de répondre à ces questions.
Merci beaucoup, bonne journée, bonne fête.
L'écrivain André Yuka, notre invité, s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Ce journal a été préparé par Alain Irung et mis en onde par Mimi Kindou. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.